Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, on prend les dernières nouvelles du front. Après le smartphone, voici la smart agriculture. Pat Mounet, depuis bientôt 40 ans, le groupe ETC s'intéresse à l'agriculture et à travers l'agriculture, il en est venu à s'intéresser à toutes sortes de choses tout à fait étonnantes. Alors les biotechnologies, bien sûr, puisque les OGM sont un pur produit des biotechnologies et concernent l'agriculture. Et je rappelle volontiers que c'est vous qui avez inventé le terme de Terminator, qui a permis en grande partie d'éveiller les consciences. Mais depuis, vous vous êtes ouvert à des choses qui semblent n'avoir aucun lien. Je pense par exemple à la géo-ingénierie, à la biologie synthétique, toutes ces choses qui nous semblent encore en France extrêmement lointaines et complexes. Pourtant, les liens existent. On va les examiner aujourd'hui ensemble. Mais pour commencer, j'aimerais peut-être que vous nous parliez de ce qui se passe chez les grandes multinationales que l'on connaît. Vous les appelez les Big Six, les six géants, les grandes multinationales qui concernent directement l'agriculture. J'ai nommé celles qui s'occupent très précisément des pesticides et des semences.
Alors oui, effectivement, ces six géants sont des géants des semences et des pesticides, mais actuellement, d'ailleurs, il ne pourrait n'y en avoir que quatre ou cinq, parce que ce nombre de six se change du jour au jour. Il y a des négociations en cours actuellement entre ces entreprises qui sont en train de se racheter les unes les autres. Donc effectivement, ces entreprises sont énormes, dans la mesure où ces six entreprises représentent 75% de toute la recherche privée en agriculture, donc c'est effectivement énorme. Ces entreprises dominent le marché des semences à hauteur des deux tiers et ils détiennent environ 75% du marché des pesticides. Donc ce sont des grosses entreprises, mais par rapport à l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, et même si on les compare par exemple aux engrais ou aux engins agricoles, elles sont relativement petites finalement.
Ça c'est vraiment très étonnant. Il faut que vous nous expliquiez, enfin que vous nous donniez des chiffres pour qu'on arrive à se figurer ça.
Effectivement, on peut se dire que Monsanto est véritablement monstrueux, mais c'est un petit monstre. L'industrie des semences représente 35 à 38 milliards de dollars à l'échelle mondiale, mais si on compare cela, par exemple, aux machines agricoles ou aux engrais, les engrais représentent 175 milliards de dollars par an, donc c'est un multiple des semences. Les machines agricoles un peu plus petite, à 116 milliards de dollars, c'est quand même pas mal.
Et les pesticides ?
Alors les pesticides représentent 35-38 milliards de dollars par an. Donc là encore, c'est des secteurs qui représentent 3 à 8 fois la taille du reste des semences.
C'est effectivement curieux, Pat Mounet, parce qu'on entend toujours parler des semences et des pesticides. Est-ce que c'est parce que les problèmes causés à l'environnement et aux populations viennent surtout de ceux qui se sont appropriés les semences et qui utilisent des pesticides extraordinairement dangereux pour la santé? Ou bien est-ce que c'est simplement qu'on n'a pas pensé à élargir notre point de vue?
I think we've been too focused on seeds and pesticides.
En effet, je crois qu'on s'est un petit peu trop focalisé sur les semences et les pesticides. Alors, je ne dirais jamais que l'industrie des engrais soit inoffensive. Au contraire, elle est catastrophique. Et les machines agricoles, elles aussi, rôdent dans les parages. Et d'ailleurs, à propos, ça a un petit peu changé. La façon dont cette industrie se voit elle-même et envisage son propre avenir, ça a évolué au cours des dernières années. Pour autant, on se dit que les semences, bon, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire, bon, c'est ce qu'on se dit depuis le départ, et c'est peut-être la raison pour laquelle on est sensible à tout ce qui touche aux semences, les hybrides ou les OGM, ça nous perturbe, il y a toujours des signaux d'alarme qui se déclenchent à ce moment-là. Alors que pour les pesticides, bon, les pesticides, ce sont des toxines, donc elles représentent une menace, disons, pour l'espèce humaine. Et donc, on réagit très naturellement à tout ce qui touche aux pesticides, surtout lorsque les sociétés de pesticides achètent des sociétés de semences. Mais l'industrie des engrais est énorme, elle est cruelle, elle est complètement mangée par les cartels, des pratiques cartellaires depuis des centaines d'années. C'est un univers impitoyable, mais un univers qui est menacé, hein, parce qu'il se rend compte que les engrais de synthèse utilisent des combustibles fossiles, et dans le contexte du changement climatique, bon, cette industrie sait qu'elle se trouve dans une situation gênante, hein, puisque la moitié de ce qui est vendu aux agriculteurs n'arrive pas aux récoltes, mais disparaît au contraire sur la nappe phréatique. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils essaient de convaincre les agriculteurs de ne pas gaspiller les engrais, mais après des dizaines d'années, n'arrivent pas à convaincre les agriculteurs à dépenser moins d'argent. C'est vraiment dommage, hein, ils se donnent tellement de mal. Donc voilà, c'est une industrie qui est dans une situation délicate dont elle essaie de sortir et qui maintenant se représente comme, disons, à l'avant de l'agriculture climato-intelligente. Hein, alors que pour les constructeurs de machines agricoles, là, il y a plutôt une autre opportunité parce que elles sont dans les coulisses. Alors, pas pour les agricultures, parce que les agriculteurs savent que ces machines sont très importantes pour eux, mais on est dans le monde du big data, hein, c'est-à-dire que ces entreprises en ont pris conscience et se rendent compte que le marché consiste à dominer toute l'information relative aux conditions climatiques, météorologiques, grâce aux satellites, aux drones et tout cela, et cette information est envoyée aux machines robotisés, hein. Vous avez des tracteurs autopilotés et on n'a même pas besoin d'un conducteur au volant, et ces constructeurs disposent de la grosse boîte dans laquelle tout doit entrer, parce que les semences, les pesticides et les engrais, tout cela entre dans la grosse boîte de John Deere, hein. John Deere étant le plus grand constructeur. Donc John Deere est propriétaire de la grosse boîte avec toute l'information relative à la météo, au sol également, ils ont également cette information, et c'est la société qui peut dicter ces termes aux agriculteurs. Donc voilà, quelles semences vous devez utiliser, quels pesticides utiliser, comment appliquer les engrais, etc. Et si vous faites tout cela, hein, si, et de la façon dont on vous l'indique, on vous vendra une assurance récolte, parce que nous savons que vous avez les meilleures pratiques possibles et vous aurez un bon prix sur cette assurance.
Donc si on vous suit bien, Pat Mounet, ça serait plutôt aujourd'hui les marchands de matériel agricole, tracteurs et autres, qui tiendrait le haut du pavé et qui essaierait de racheter l'ensemble du secteur agricole.
Alors, on ne sait pas comment le marché va évoluer. Dans l'état actuel des choses, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que l'industrie des semences est un peu coincée, d'ailleurs l'industrie des pesticides également. Monsanto, justement, qui vend à la fois des semences et des pesticides, a surtout mis l'accent sur les semences en se servant de Roundup et du glyphosate comme étant le pesticide magique. Mais maintenant, le glyphosate pose problème. L'OMS a souligné que ce produit peut être carcinogène.
Probablement.
Oui, effectivement, hein, qu'il soit probablement carcinogène plutôt. Et puis, on se rend compte maintenant qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes qui résistent justement au glyphosate. Et donc là, il y a des problèmes de ce côté-là. Problème également du côté des pollinisateurs. Et ils n'ont pas investi autant qu'ils auraient dû dans les nouveaux pesticides. Donc soit il faut qu'ils achètent un autre procédé de fabrication de pesticides, ou alors ils doivent trouver un acquéreur. C'est l'un ou l'autre. Syngenta se trouve dans la même situation. C'est la plus grosse société de pesticides, avec également beaucoup de semences, mais n'a pas investi autant en semences qu'en pesticides. Et là encore, ils cherchent également un acquéreur. Vous avez DuPont Pioneer, qui est la deuxième société de semences, également l'une des plus grosses sociétés de pesticides également, qui se trouve dans une situation incertaine par rapport à son avenir. Il y a la pression de la réglementation innovation. John Deere ne sait pas, enfin, ils ne savent pas s'ils pourront rivaliser avec Monsanto ou avec Syngenta. Et là aussi, ils cherchent un acquéreur. Et vous avez Dow Agrobusiness qui vend également des semences et qui cherche également un acquéreur. Donc, beaucoup de vendeurs, on ne sait pas où sont les acheteurs, ceux qui, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a, à mon sens, une réelle possibilité que l'un une des grosses sociétés chinoises va entrer sur le marché. C'est le bon moment d'intervenir puisque le marché est très bas actuellement, les prix sont très très faibles et cela ne m'étonnerait pas. Maintenant, mais même à moyen terme, hein, je dis pas dans 20 ans ou même dans 10 ans, à court terme même, l'argent se trouvera où? Essentiellement dans les constructeurs de matériel agricole.
C'est assez vertigineux quand on vous écoute, Pat Mooney, d'essayer de repenser à toutes les luttes qui ont cours de par le monde pour essayer de revenir sur la propriété intellectuelle qui s'applique à l'ensemble des semences et qui empêche aujourd'hui les gens de semer ce qu'ils veulent sans avoir à payer pour acheter les semences. La lutte contre les OGM, la lutte pour empêcher l'érosion de la biodiversité. Et ce que vous nous décrivez, on a le sentiment que ça se passe très très loin, ailleurs, dans un autre monde qui n'est jamais atteint justement par toutes ces protestations et tous ces cris qui s'élèvent de partout.
Ah si, ce monde a bien été atteint par les protestations. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles Monsanto cherche un acquéreur ou cherche à acheter d'autres entreprises, c'est justement parce que Monsanto essaie de se débarrasser de son nom. Hein, tout le monde se dit que Monsanto est le monstre et les gens sont toujours étonnés d'apprendre que cette société est relativement petite, même si, évidemment, cette société est importante dans la mesure où elle touche notre quotidien. Donc, vous avez des sociétés qui souhaitent d'abord réduire l'impôt sur les bénéfices, et c'est pour ça qu'ils souhaitent aller en Europe, parce que l'impôt sur les sociétés est plus faible là-bas. Ils veulent changer de nom également.
Ils auraient beaucoup de mal à arriver en Europe, effectivement, en tout cas sous ce nom-là.
En effet. D'ailleurs, on aurait un nom intéressant. S'il y avait une fusion avec John Deere, il pourrait s'appeler John D. Monsanto, hein, ou D. Monsanto, hein, pourquoi pas.
Vous avez évoqué tout à l'heure la proposition de vendre des assurances sur le climat, est-ce que c'est pas un pari un peu risqué, ça, quand on pense justement au changement climatique et à toutes ces catastrophes qui sont en train d'arriver et qui sont apparemment pour l'instant assez imprévisibles?
Sure.
En effet, mais justement, les agriculteurs ont besoin d'assurance, et dans la mesure où il y aura une demande pour ce produit, finalement, les sociétés qui arriveront à vendre ce produit le mieux, ce sera qui? Est-ce que ce sera une société qui ne connaît pas grand-chose à l'environnement agricole, ou bien plutôt une société qui dispose de drones ou de satellites, qui a accès à l'information des satellites, qui peut justement traiter le big data qui concerne des hectares entiers de sol, la qualité des sols. Aux États-Unis, quelques 75% des terres emblavées en soja ou en maïs ont été cartographiées à échelle de 10 mètres carrés, hein, des tout petits pixels. Et donc, ces sociétés connaissent les conditions des sols depuis des années. Hein, et cette information continue de se développer. Monsanto ou John Deere peut jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire que d'un côté, ils disposent de toute l'information concernant les agriculteurs, et notamment les agriculteurs individuels, mais ils connaissent également les conditions climatiques, météorologiques, etc. Et également les conditions du marché. Hein, et ça, c'est évidemment très important.
Et est-ce qu'ils ne vont pas se cogner dans les grandes compagnies d'assurance qui pourraient trouver assez désagréable cette concurrence?
C'est vrai, ce risque existe, mais en même temps, l'assurance récolte varie à travers le monde. Aux États-Unis, c'est essentiellement, ça relève du secteur privé. Dans d'autres pays, c'est un mélange privé-public. Dans certaines régions du monde, l'assurance récolte relève entièrement du secteur public. Je voudrais faire une comparaison. Enfin, comparaison n'est pas raison, mais enfin, ça ressemble un petit peu à ce qui se passait avec les semences dans les années 70, les années 80, lorsque les semences relevaient essentiellement de l'autorité publique, tout l'investissement était réalisé par le public, les universités, etc. Alors évidemment, les Monsanto ont réussi à convaincre le secteur public de se retirer de la concurrence et ne proposer que de la main d'œuvre bon marché, en tout cas la recherche bon marché au niveau académique. La même chose pourra se passer pour l'assurance récolte, c'est-à-dire qu'il y aura un mélange public-privé. C'est le secteur public qui prendra les gros risques que le secteur privé ne voudra pas prendre, mais les exploitations, les grandes exploitations agricoles qui représentent de meilleures opportunités seront essentiellement couvertes par le secteur privé, d'une manière assez importante. Actuellement, les grosses sociétés d'assurance pour les récoltes, ce sont les banques, mais les banques elles-mêmes se restructurent, changent de modèle, et vous avez Wells Fargo aux États-Unis, par exemple, qui n'aime pas trop ce business de l'assurance récolte parce qu'ils n'ont pas les connaissances, par exemple, de John Deere, et je crois qu'ils seront disposés à céder cette activité à des gens comme John Deere, justement. Et d'ailleurs, ça se produit déjà. BASF en Allemagne, qui est évidemment une grande société de pesticides et de semences, a fait des accords avec d'autres entreprises concernant justement l'assurance récolte, en disant, voilà, vous aurez cette assurance tant que vous utilisez 3 des produits BASF. Ça fait partie du package. Même chose avec Syngenta, qui a une fondation privée. Alors, cette fondation est tenue d'assurer la rentabilité de la maison mère. Et Syngenta, en Afrique de l'Est, conclut des accords avec les agriculteurs en disant, voilà, si vous achetez nos produits, vous serez assuré, sinon vous n'aurez pas d'assurance.
Beaucoup de mouvements, effectivement, en perspective. J'étais en train de me demander, Pat Mounet, si vous aviez commencé insidieusement à nous parler de ce qu'on appelle l'agriculture intelligente ou alors climato-intelligente. Toutes ces technologies hyper sophistiquées que vous avez évoquées il y a un petit moment, les big data, comme vous les appelez, tous ces renseignements sur quelques centimètres carrés de terre un peu partout aux États-Unis, les renseignements concernant la météo, concernant l'état des sols, etc. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'agriculture intelligente? Est-ce qu'on est arrivé au point où on confond complètement l'intelligence et l'hypertechnologie?
Sure, they are. I mean,
On pourrait se dire ça, en effet. D'ailleurs, tout récemment, il y avait une réunion du traité sur les semences à Rome au mois d'octobre. Et c'est intéressant de voir que pendant la séance d'ouverture, et donc on parlait des dispositions d'échange de semences et le rôle des grandes entreprises, mais c'était dans un cadre intergouvernemental. Eh bien, le discours d'ouverture parlait de la dématérialisation des ressources génétiques. Alors, la dématérialisation des semences, ça veut dire qu'on remplace les semences par des données. Enfin, c'est essentiellement à ça que ça se réduit. Et la capacité de cartographier le génome d'une espèce ou d'une variété végétale, de la mettre en ligne, de télécharger justement la séquence d'ADN et ensuite de fabriquer à partir d'une application une nouvelle variété, ça devient, enfin, c'est effectivement du traitement de données qu'il s'agit, du point de vue biologique. On recrée la biologie grâce au traitement de données. Et ce que Monsanto, Syngenta a pu voir, mais également d'un autre côté, John Deere et Yara ont très bien reconnu, eh bien, c'est que tout se ramène, enfin, de leur point de vue, moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais tout se ramène à leurs yeux au traitement de données. À savoir que, qu'il s'agisse de données biologiques ou de chaînes de 1 et de 0, c'est la même chose. C'est des données qu'ils savent gérer sur leurs ordinateurs, qu'ils peuvent cartographier, qu'ils peuvent suivre et traiter. Et de ce point de vue-là, finalement, la dernière question est de savoir qui va l'emporter dans cette bataille. Est-ce que ce sera les sociétés de semences, de pesticides qui gèrent et traitent les données et qui cartographient les génomes et les mutateurs génétiques, et il y a d'ailleurs toutes sortes de techniques qui se sont développées au cours des dernières années, ou bien est-ce que ce seront finalement ceux qui détiennent la fameuse grosse boîte et qui disent, au bout du compte, tout arrive dans mon tracteur, dans mon robot et ma connaissance des systèmes météorologiques et des marchés. Alors, moi, je ne suis pas sûr, mais je pense que ce sera plutôt les matériels agricoles qui vont l'emporter.
C'est quand même très paradoxal quand on y pense, parce que toutes ces compagnies que vous évoquez, Pat Mounet, sont celles qui sont le plus régulièrement incriminées dans les changements climatiques, en particulier ceux qui proviennent de l'agriculture, bien sûr. Aujourd'hui, avec cette prétendue dématérialisation, ils reprennent le rôle de chevalier blanc qui va sauver la planète du changement climatique. Et peut-être le plus étonnant ou le plus démoralisant, je ne sais pas ce qu'il faut dire, c'est de voir l'ensemble de la communauté scientifique, politique, médiatique, leur enfourcher le pas et proclamer sur tous les toits que c'est absolument formidable. Il y a eu une conférence internationale qui s'est tenue à Montpellier début mars 2015, dans laquelle il y avait des représentants, 750 représentants de tous les pays. On parle de consensus unanime, on parle d'une sorte d'élan comme ça qui serait donné par ces fameuses compagnies dont vous venez de nous décrire l'agitation.
It is amazing. I mean,
c'est effectivement tout à fait étonnant. Moi, j'ai participé à d'innombrables réunions sur l'agriculture climato-intelligente avec les représentants du secteur privé, la FAO, les États même. Et maintenant, on se dit que finalement, on aurait dû penser à un autre nom que agriculture climato-intelligente. Ça veut dire que depuis 23 000 ans, on était climato-stupide, donc qu'on a eu que des générations d'agriculteurs imbéciles. Bon, évidemment pas. Mais en même temps, on n'arrive même pas à trouver la définition de ce dont il s'agit. Le nom est gênant, climato-intelligent, mais on ne peut même pas donner une définition en disant, voilà, c'est de telle agriculture qu'on parle. Est-ce qu'il s'agit d'agroécologie, d'OGM, pas vraiment, c'est un peu de tout ça. Bon. Donc on est un peu gêné par le nom et par le sens, par le concept même. Et ce qu'on fait maintenant, c'est de créer une espèce de méga concept dans lequel on met toutes sortes d'idées. Mais au bout du compte, ce sont les sociétés d'engrais qui financent tout cela en ce moment. Et vous avez un concept qui dit que qui dit climato-intelligent dit gestion de données, traitement des données, de l'ADN, des systèmes météorologiques, de la qualité des sols, etc. C'est un peu ça qui se passe. Et puis, il y avait une réunion à la FAO, donc, à Rome, où il y avait Via Campesina, le mouvement paysan d'un côté, et les représentants de l'agriculture autoproclamée climato-intelligente de l'autre côté. Et vous avez quoi, 70 personnes dans la salle, c'était une réunion intergouvernementale, mais il n'y avait aucun pays du Sud représenté. Vous aviez les Pays-Bas, la Norvège, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande même, la FAO, bien sûr. Il y avait deux représentants de l'Inde, mais c'était une ONG qui était subventionnée par la FAO. Bon. Et puis, quelques agriculteurs, eux, venus du monde entier, mais les États du Sud n'étaient pas représentés, ils n'en parlaient pas. Ils étaient pourtant, il y avait des représentants dans le bâtiment, mais ils ne sont pas venus à cette réunion pour aborder le problème. C'était l'industrie et quelques États du Nord qui étaient représentés et qui étaient très mal à l'aise, qui étaient mal à l'aise par rapport à tout cela, et qui souhaitaient avoir un autre nom que agriculture climato-intelligente, qui n'était pas en mesure de définir ce qu'ils faisaient, ni ce qu'ils ne faisaient pas. C'était vraiment une sensation assez étrange de trouver des fonctionnaires de haut niveau aussi incompétents et aussi bien payés.
En tout cas, effectivement, il y a un certain nombre des pays européens. Il y a la Norvège, la France, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, évidemment les États-Unis, l'Irlande, le Royaume-Uni, 22 membres en tout de ce qu'ils appellent aujourd'hui l'Alliance mondiale pour une agriculture climato-intelligente.
Et oui, 22 pays qui font partie de l'Alliance et qui participaient donc à cette réunion internationale qui était censée être une espèce d'enceinte ouverte pour parler de l'agriculture climato-intelligente, mais personne n'est venu y participer. En tout cas, le Sud n'y était pas. Je ne sais pas où tout cela va nous mener. Ce que nous appelons l'agriculture climato-intelligente telle qu'on l'a décrit dans la COP21 et tout ça, ce n'est pas ça la réalité. Ce qui se passe vraiment, c'est dans le Conseil mondial des affaires pour le développement durable, qui a un comité sur l'agriculture climato-intelligente, qui est co-présidé par Monsanto, justement. C'est là que tout se passe, c'est là que les négociations se passent. Et ce que nous voyons actuellement, c'est Syngenta qui produit des brevets aux États-Unis sur ce qui s'appelle justement des brevets d'agriculture climato-intelligente qui permet de résister à la sécheresse en utilisant des engrais, curieusement. Alors, c'est assez curieux. Également en utilisant des fongicides, il y a de ça aussi. Mais enfin, les engrais, ça me paraît un peu curieux.
C'est ce qu'on appelle en français « business as usual ». Tout de même, Pat Mooney, on ne peut pas vraiment dire que ça soit « business as usual », puisqu'il y a quand même effectivement des avancées tout à fait notables et assez inquiétantes, je dois dire, du côté de cette intelligence appliquée aux choses de la vie et de l'agriculture. D'abord, je voudrais faire une remarque que je me suis faite en lisant les rapports que vous publiez régulièrement et qui permettent de se tenir au courant de ce qui se passe. C'est quand même curieux de penser que les pesticides, la chimie des pesticides, qui est un des secteurs extrêmement importants aujourd'hui, vient directement d'une activité militaire. Au départ, c'était des produits chimiques qui étaient inventés pour faire la guerre. Aujourd'hui, on a l'impression qu'avec toute cette technologie autour des big data, des données, etc., c'est aussi du matériel militaire ou de l'intelligence militaire qui est mise à la disposition de l'agriculture. Le troisième pilier, évidemment, alors qui concerne moins directement l'agriculture, étant le nucléaire, qui provient lui aussi du militaire et qui a pris une place tellement prépondérante dans nos vies.
Oui, c'est vrai. Et puis, d'ailleurs, l'industrie des engrais trouve également son origine dans le monde militaire, hein, puisque c'était le procédé Haber-Bosch pour fabriquer des engrais azotés, qui, c'est le même procédé qui a été utilisé dans la guerre chimique, hein, pendant la Première Guerre mondiale. C'est les mêmes inventeurs qui ont créé le même produit et qui ensuite ont d'abord essayé sur le champ de bataille les produits qui ensuite ont été recyclés dans l'agriculture. Et puis avant ça, il y avait le guano, hein, en Amérique latine, au Pérou et au Chili. Et le guano a été utilisé à des fins militaires pour fabriquer de la poudre à canon, exactement de la même façon ensuite qu'on a utilisé pour en faire des engrais. Il y a toujours eu ce lien entre les besoins militaires pour fabriquer des produits azotés et leur utilisation donc à des fins agricoles.
Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui se passe aujourd'hui ? En fait, j'essaye de vous amener là sur le terrain de la biologie synthétique pour que vous nous parliez des derniers développements.
Alors, ce domaine est trouble, c'est le moins qu'on puisse dire. Les choses étaient beaucoup plus claires il y a quelques années. Au départ, vous aviez donc un nouveau secteur d'activité qui a proclamé qu'il allait nous aider à nous débarrasser en quelque sorte de l'industrie des combustibles fossiles avec une nouvelle économie verte. Et vous aviez des entreprises aux États-Unis, en Europe, notamment en Suisse et aux Pays-Bas, qui ont annoncé haut et fort qu'ils allaient créer la deuxième ou la troisième génération de biocarburants qui seraient sensibles à l'environnement, qui ne rivaliseraient pas avec la production alimentaire, qui convertiraient les fibres cellulosiques pour en faire du sucre à des fins, justement, de produire des carburants, et tout irait très bien. Et puis, ce sont les mêmes entreprises aujourd'hui qui n'ont même pas eu la décence de changer de nom ou de dirigeant. Ces mêmes entreprises nous disent que, finalement, ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. On a eu du mal à atteindre la taille critique pour rivaliser avec Exxon ou Royal Dutch Shell. Donc, au lieu de lutter contre ces géants, on va s'associer à ces géants. Et alors, ce que font ces entreprises, c'est ce qu'on appelle de la récupération assistée du pétrole, également ce qu'on appelle la récupération microbienne assistée des hydrocarbures. Hein, ça, c'est le nom savant. Mais enfin, l'idée, c'est de créer des nouveaux microbes qui sont utilisés dans le fracking, qui permet de faire sortir donc le gaz de schiste du sol, mais dont on peut également se servir sur les plateformes pétrolières ou dans les puits de pétrole pour récupérer la dernière goutte de pétrole au fond du sol. Donc, alors qu'ils étaient au départ les champions de cette nouvelle énergie renouvelable, ce sont maintenant ces entreprises qui récupèrent davantage de pétrole et créent des gaz à effet de serre.
De qui est-ce que vous parlez ? Qui sont ces gens qui font ça ? Qui s'occupe de ces questions-là aujourd'hui dans le monde, Pat Mooney?
Alors, vous avez Solazim, vous avez Amiris, ça, c'est les deux noms qui me viennent à l'esprit, mais il y en a d'autres, hein, il y a d'autres entreprises. Il faut quand même souligner qu'ils n'ont pas complètement abandonné, si vous voulez, leur quête. Ils essaieront quand même de produire un jour une nouvelle génération de biocarburants qui pourra être fabriqué, mais enfin, ils n'ont pas réussi à atteindre justement cette masse critique et ils n'arrivent pas à concurrencer les grandes entreprises de pétrole et autres. Lorsque le prix du pétrole ou du gaz de schiste est si accessible par rapport à eux, ils peuvent pas rivaliser avec ça. Donc ils se sont diversifiés, notamment pour aider ces entreprises, mais également ils ont créé des start-up qui s'intéressent. Alors là, c'est une espèce de proie facile du marché, hein, une cible facile à atteindre. C'est tout ce qui concerne les arômes et les parfums. Et là, effectivement, ils investissent là-dedans pour arracher
arraché ses parts de marché aux agriculteurs, aux cultivateurs de vanille à Madagascar ou de safran en Iran ou de bois de santal à Haïti. Et puis il y a d'autres produits naturels. Il y en a un dont le nom m'échappe, mais qui est produit au Paraguay, et le nom va me revenir dans un instant, c'est ce qu'on appelle la stevia, qui est également une culture du Paraguay.
Mais donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pousser eux-mêmes du safran, de la vanille, de la stevia? Non, c'est pas ça, en fait.
Alors, dans le cas de la stevia, et là vous avez à la fois Coca-Cola et Pepsi-Cola qui ont essayé de se servir de la stevia comme produit naturel pour remplacer le sucre, sucre de canne ou sucre de betterave. Enfin, dans différents pays, ils ont essayé ça, et dans différents marchés, notamment donc en Amérique latine. Et alors effectivement, vous avez au bout du compte une boisson gazeuse qui n'a pas de calories, donc tout va très bien. Mais alors, ce qu'ils ont constaté, c'est que la stevia peut être cultivée dans des cuves, et en Belgique ou en Suisse ou que sais-je, ou aux États-Unis justement. Et grâce à cela, on cultive, si vous voulez, la levure dans ces cuves et extraire l'ingrédient utile donc dans ces boissons gazeuses. Alors, vous avez des accords entre Cargill, Solazim et Coca-Cola, par exemple, pour retirer la production du terrain pour la mettre justement dans des cuves.
Et ce que vous dites là sur la stevia vaut également, évidemment, pour la vanille, pour le safran et pour tous ces arômes et parfums qui sont... Alors, comment est-ce qu'on va dire? C'est plus exactement des parfums synthétiques, c'est encore autre chose.
Alors, ces entreprises aimeraient bien appeler ça des parfums naturels, parce que c'est une industrie de 25 milliards de dollars, ce qui paraît pas énorme, mais quand on est un petit cultivateur en Haïti ou à Madagascar, c'est un très très gros marché. Ou en Iran, hein, les cultivateurs de safran, c'est pour eux, ce sont des très très gros marchés. Hein, vous avez des centaines de milliers de familles d'agriculteurs qui sont concernés par ce problème. Mais ces grosses sociétés doivent pouvoir dire haut et fort qu'il s'agit d'un produit naturel. Donc, même si ce produit, cette vanille est cultivée dans une cuve en Suisse, elle reste naturelle. Si elles ne peuvent pas appeler ça de la vanille naturelle, là, il y a un problème. Mais alors, il faut quand même souligner, d'abord, ce n'est pas un produit naturel et qui n'a pas été correctement réglementé, étudié, ni rien d'ailleurs, mais c'est une technologie qui, en plus, menace la survie de centaines de milliers de familles d'agriculteurs. Mais en plus, c'est un produit qui n'élimine pas le problème de la matière de base, parce qu'il faut quand même produire un sucre pour obtenir la levure. Et donc, il faut aller cultiver quand même cette canne à sucre. Donc, on a besoin de sol, on a besoin même de terrains énormes pour produire cette canne à sucre, pour ensuite produire cette levure qui se retrouvera dans la cuve. Et puis, le problème d'obésité n'est pas réglé non plus. Et ça, c'était le point de départ de toute cette histoire. La raison pour laquelle on se servait de la stevia, c'était de pouvoir dire que Coca-Cola et Pepsi-Cola, qui sont justement attaqués sur ce dossier, disent voilà, on a une boisson gazeuse sans sucre, sans calories, vous pouvez en boire autant que vous voulez, alors que la science nous dit, et l'OMS l'a confirmé, qu'en fait, on ne règle pas le problème. Ce qui se passe, c'est que le corps a un désir de sucre qui n'est pas assouvi par la stevia, mais qui est stimulé par la stevia, et donc celui qui boit le Coca va ensuite chercher son sucre ailleurs. Et donc, il n'y a pas de recul de l'obésité. Il y a un déplacement, si vous voulez, de la source de l'obésité.
C'est là que le fait que les pays ont de plus en plus de mal à se résigner à réglementer devient vraiment intéressant pour ces compagnies. Parce que dans tout ce que vous décrivez, on a le sentiment qu'il y aurait largement de quoi interdire la commercialisation de ces produits. Mais est-ce qu'on va y arriver ?
Écoutez, c'est quand même possible que nous gagnions cette bataille. Alors, je reviendrai peut-être sur ces propos plus tard, mais actuellement, il me semble qu'il y a de bonnes chances de gagner cette bataille. Pourquoi ? D'abord parce que l'industrie des produits naturels en Europe, aux États-Unis, est quand même un secteur d'activité très important qui traite directement avec les consommateurs, qu'il s'agisse de produits alimentaires ou de cosmétiques, des parfums, des arômes qui doivent absolument être naturels. Ils ne veulent pas ternir leur image de produit naturel. Il faut se rappeler que c'est un très très gros marché qui a beaucoup d'influence. Et là, ces entreprises-là sont inquiétées par la perspective d'être disons menacées par quelque chose de bien pire que les OGM. Parce que les entreprises d'OGM, donc les Monsanto, Syngenta, c'est des entreprises qui vendaient des produits à des agriculteurs, pas directement aux consommateurs, et essentiellement des produits destinés au bétail. Alors que maintenant, avec la biologie synthétique, c'est quelque chose qu'on nous fait littéralement avaler. Hein. Le safran, mais également le vétiver, les produits cosmétiques et autres, la vanille dont je vous ai parlé, que les gens vont véritablement utiliser, des produits qui sont utilisés dans la cuisine de tous les jours, et tout d'un coup, on va leur dire, bah voilà, c'est une nouvelle technologie qui n'a pas fait l'objet de réglementation, qu'on ne connaît pas bien, qui n'est pas naturelle, même si on affirme qu'il s'agit de produits naturels, et tout le monde va être assez inquiet avec tout cela. Et puis, il faut se rappeler une autre chose. Il y a la réglementation, il y a le codex alimentaire, qui est partagé donc par l'OMS et la FAO, et qui est très prudent sur justement l'usage du mot naturel. Et c'est un véritable champ de bataille autour de cette question. Et je crois que les entreprises vont reculer devant ça. Il y a déjà eu l'affaire Ecovert, hein, qui vend des produits ménagers et qui est une grosse société de produits d'entretien et qui disait qu'elle faisait des produits naturels. Eh bien, Ecovert s'était accroché à l'idée d'éviter la culture d'huile de palme en cultivant les produits dans des cuves, justement. Et lorsqu'on l'a fait remarquer, leurs propres scientifiques l'ont reconnu, que le travail de recherche n'avait pas été accompli, que tout ce qui concerne le cycle de vie du produit n'est pas connu, il n'y avait pas de recherche non plus sur le plan réglementaire ou même sur la sécurité du produit, les aspects environnementaux, eh bien Ecovert a reculé et a suspendu la commercialisation de produits de biologie de synthèse.
J'espère que vous avez raison, Pat Mounet, mais de fait, l'emploi de ce terme « naturel » peut faire passer beaucoup de choses. Et puis, quand on pense à ce qui se passe pour tout ce qui est les nanoparticules qui sont déjà présentes partout sans avoir été l'objet de la moindre réglementation, j'étais en train de me dire aussi qu'il y a déjà des arômes artificiels et que ça n'a pas l'air de déranger grand monde. Pourtant, ça a été prouvé que tous ces fameux E300, E600, je ne sais trop quoi, sont extrêmement nocifs pour la santé. Mais ça a moins frappé l'esprit du public que les OGM, qui ont véritablement, en tout cas en Europe, réussi à dresser des populations entières contre. Et justement, je me demandais comment est-ce que vous pourriez distinguer les OGM de la biologie synthétique, Pat Mounet ?
On pourrait dire que la biologie synthétique, c'est comme les OGM, mais boosté à la puissance 14. Hein, c'est-à-dire que au lieu de passer d'un gène à un autre ou avec une petite manipulation, là, avec la biologie de synthèse, c'est des chapitres entiers du livre génétique qui sont modifiés. Hein. C'est-à-dire qu'on reconstruit l'ADN de toute pièce. C'est des formes de vie qui n'existaient pas qui sont créées de toute pièce.
Par exemple.
Vous avez les levures autoreproductrices, par exemple, ou des bactéries qui sont différentes des bactéries naturelles. Alors, la différence entre ces produits de synthèse et les produits naturels, ces différences elles-mêmes évoluent du jour au jour. Alors, ça n'est plus de la transgénique, là. Là, vraiment, on construit de l'ADN qui a été téléchargé sur Internet, qui a été construit de toutes pièces, hein, c'est ce que je disais.
En fait, c'est devenu très facile et très bon marché aujourd'hui.
Very fast and very cheap.
Mais oui, très facile, très bon marché. On dit même, alors c'est probablement une exagération, mais on dit, et cela m'inquiète un petit peu, et les instances de tutelle devraient s'en inquiéter, ces entreprises affirment qu'ils évoluent 5 fois plus vite que la loi de Moore. Autrement dit, on multiplie par 2 la vitesse de production et on divise le coût de part d'eau en l'espace de 3 ou 4 mois. Alors, c'est une exagération sans doute, mais enfin, c'est quand même un ordre de grandeur. C'est-à-dire que ces produits sont tellement faciles à faire, tellement bon marché. Alors, évidemment, pas en toute sécurité, certainement, et c'est des choses qui... au bout du compte, ne sont probablement pas souhaitables. Mais enfin, les choses vont très vite et tout le monde s'accroche à cette nouvelle panacée qui est un petit peu un mirage. Il y a eu un moratoire sur la... Enfin, on a demandé plutôt un moratoire sur la biologie de synthèse qu'on n'a pas obtenu, mais par contre, la commission de la biodiversité aux Nations Unies a créé un groupe de travail dont nous faisons d'ailleurs partie et où siègent les États, mais où siège également l'industrie, pour essayer de voir quelle réglementation s'impose. Mais on garde d'ailleurs la possibilité d'un moratoire sur tous ces produits de biologie de synthèse. Et on reconnaît que certains aspects de cette biologie ne sont pas couverts du tout par la réglementation. Il y a des choses qui ne sont pas réglementées du tout. Et alors, vous avez tout à fait raison, je vous rejoins. Il y a de la vanilline et d'autres produits qui sont en fait des produits chimiques utilisés dans les parfums. Mais enfin, c'est dans des produits transformés qu'on les utilise. C'est-à-dire que le consommateur n'est même pas conscient de la présence de ce produit de vanille artificielle qui résulte d'un procédé chimique qui est certainement mauvais. Mais lorsqu'on prendra conscience du fait que le produit naturel utilisé dans les produits de haut de gamme, les arômes dans le gâteau d'anniversaire ou la bûche de Noël ou que sais-je, bon, là, les gens commenceront à s'inquiéter s'ils disent, attention, ces produits n'ont pas fait l'objet d'essais, de réglementations. Là, la réaction sera différente. C'est quand même pas la même chose que ce qu'on donne aux animaux, par exemple.
Mais on peut continuer, parce que au-delà de ces produits qui arrivent et qui effectivement peut-être ne trouveront pas leur place sur les étagères de la cuisine, en effet, il y a aussi tout ce que ces esprits fertiles sont en train d'imaginer à appliquer directement au monde vivant, aux plantes. Je pense par exemple à l'accélération de la photosynthèse. Il semblerait que la photosynthèse soit vraiment pas assez efficace et qu'il faille l'améliorer.
Oui, alors c'est quelque chose qui m'étonne toujours. Tout récemment, figurez-vous que j'ai participé à l'évaluation, le bilan au bout de 10 ans, donc des nouvelles technologies autour des sciences naturelles. Et le bilan était plutôt maigre, les gens n'étaient pas très fiers de leurs résultats. Mais enfin, dans le débat, il y a eu un rapport... Alors, c'était un des centres de recherche nucléaire aux États-Unis, je ne sais plus lequel, qui avait chargé ses scientifiques depuis, donc, je crois, 3 ans, à essayer justement d'améliorer la photosynthèse. Donc, ils ont ramené les choses à la base en demandant à des physiciens, des scientifiques, voilà, repartez à zéro et trouvez la meilleure façon d'extraire l'énergie du soleil et sans penser, sans vous comparer aux plantes ou que sais-je, créer un système de toutes pièces. Alors, et ce qu'on nous a produit, c'est ce qui existe déjà dans la nature. Alors, autrement dit, les scientifiques n'ont pas pu faire mieux que la nature. La nature s'en sort plutôt bien, ça varie d'une plante à l'autre, par exemple, s'il s'agit de plantes C3 ou C4, les résultats ne sont pas les mêmes. Enfin, la nature arrive à traiter l'énergie du soleil et la science n'a pas pu faire mieux que la nature. Et alors, est-ce qu'on arrivera à dépasser la nature? Je ne le sais pas. Est-ce qu'on arrivera à le faire de manière sûre? Ça, j'en doute. Et quelles seront les contreparties si on arrive à créer quelque chose qui soit plus efficace, mais peut-être plus dangereux?
Il faut que vous expliquiez quand même, Pat Mounet, ce que c'est que les plantes C3 et C4 et pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté d'améliorer la photosynthèse?
Alors, une plante C3, typiquement, le riz, n'est pas aussi efficace dans le traitement de l'énergie solaire qu'une plante C4, comme le maïs. Le maïs étant une plante, disons, plus complexe de ce point de vue-là, et qui arrive à mieux gérer donc son activité de photosynthèse. Mais, évidemment, si on améliore l'efficacité énergétique de ces plantes, c'est pour ça qu'on le fait. Alors, à ce moment-là, vous allez me dire, mais on n'a qu'à faire que du maïs, mais on en a déjà bien assez de maïs sur Terre et on n'a pas besoin d'en faire plus. Mais effectivement, on pourrait faire un travail scientifique intéressant là-dessus. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Mais au bout du compte, même si la science est passionnante, au bout du compte, la question est de savoir qui fait le travail scientifique et ça nous ramène au début de la conversation. Qui sont les 6 géants qui... qui consacrent 45% de toute leur recherche, hein, tout leur effort de R&D sur une seule culture, le maïs. Hein, ce sont essentiellement des sociétés de maïs qui s'intéressent qu'au maïs. Alors ça, ce seront les sociétés qui vont peut-être utiliser l'agriculture climato-intelligente pour faire changer les choses, peut-être en améliorant la photosynthèse. Moi, j'en doute. Moi, je ne vois pas venir les changements dont nous avons vraiment besoin pour que le système alimentaire soit plus sain, plus sûr. Je ne vois pas venir les changements énergétiques dont nous aurions besoin, les autres formes d'énergie. Je ne vois pas ce genre de résultats sortir du travail de recherche de ces entreprises.
Alors, est-ce que ça serait eux, par contre, qui s'intéresseraient aux recherches qui tentent aujourd'hui de transférer dans les plantes certaines capacités des insectes, alors je ne sais même plus exactement tellement c'est délirant, mais qui permettrait de revenir sur les résistances aux herbicides acquises justement à force d'arroser de Roundup et d'avoir des plantes tolérantes au Roundup, par exemple.
Yeah, I mean, it's a bit shocking even to think of it.
Et d'ailleurs, c'est assez extraordinaire quand on y pense un peu. On a ce qu'on appelle les mutateurs génétiques, hein, les gene drives, qui envahissent l'ADN d'espèces d'insectes, justement, en modifiant l'équilibre de telle sorte que cet insecte, dans sa reproduction, donnera finalement des espèces plus vulnérables, enfin plus faibles, hein, donc moins capables d'attaquer les plantes. Donc, autrement dit, autant au lieu d'asperger les cultures, c'est toute la nature qui est en quelque sorte aspergée de ce produit. Hein, c'est-à-dire que la culture reste intacte, mais par contre, c'est le monde entier autour de la culture qui est aspergé de produits. Je sais pas, moi, je trouve ça assez hallucinant. Enfin, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose un peu intelligent? Enfin, est-ce qu'on veut vraiment introduire dans le monde entier, dans les forêts, dans nos parcs, dans nos jardins, dans l'eau de nos enfants, enfin des produits qui vont finalement s'infiltrer partout et qui vont donc diffuser ce produit qui va réduire les capacités des organismes, une espèce de Terminator finalement qui sera diffusé dans la nature comme ça, enfin je sais pas.
Mais Pat Mooney, oui c'est absurde, mais c'est terrifiant parce que oui, ils sont en train d'essayer de le faire.
Yeah, I know.
Mais oui, c'est ce que je disais. Alors certes, avec ça, le marché s'agrandit parce qu'au lieu de s'intéresser à 4 milliards d'hectares de sol emblavé, c'est le monde entier qui devient le marché. Alors évidemment, ça augmente, ça agrandit le marché des pesticides. Enfin, ce produit, un pesticide, je sais pas, c'est un mutateur génétique. Enfin, ça, évidemment, ça agrandirait le marché. C'est peut-être pour ça qu'on le fait. Non, mais sérieusement, on voit que le monde évolue actuellement. Les grandes questions sont posées sur le changement climatique et il y a ce qu'on appelle le food movement, qui est un véritable mouvement.
Qu'est-ce que vous appelez le mouvement, le food movement?
Alors, le food movement, il y a deux extrémités. D'un côté, les producteurs, de l'autre, les consommateurs. Donc, via Campesina, les producteurs, vous avez la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique. Bon, ça, c'est les producteurs. Et puis, vous avez de l'autre côté le slow food, le contraire du fast food. J'étais à Assam, en Inde, il y a quelques semaines, où il y a eu une réunion qui aurait été impensable, illogique, il y a quelques années seulement, puisqu'on réunissait dans la même réunion les populations, les organisations de populations autochtones et le mouvement Slow Food. Hein. C'était donc les agriculteurs qui rencontraient donc les populations autochtones et qui parlaient de stratégies partagées. Donc, lorsque vous avez ce genre d'échange qui se passe, là, je crois qu'il y a de l'espoir. Hein, et les choses, un espoir positif. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se fait là, nécessairement, mais je pense qu'il y a vraiment, là on tient le bon bout. Hein. Dans mon propre pays, au Canada, vous avez une augmentation de 10% des marchés de producteurs, une immense augmentation de l'alimentation biologique. Hein. Donc là vraiment, il y a un mouvement positif et je suis assez optimiste. Hein. Je ne pense pas qu'on va tolérer toutes ces idées invraisemblables. De la même façon que le monde n'a pas accepté le Terminator hein, dans les champs agricoles, il y a eu un moratoire qui reste en vigueur depuis une quinzaine d'années et qui va se perpétuer, eh bien, l'équivalent d'un terminateur dans la nature, avec ces mutateurs génétiques, là, ce va également se heurter à une forte opposition. Ce ne sera pas accepté. Alors, pour l'instant, on ne sait pas que ça se trame, si vous voulez, c'est quelque chose qui est en train de se faire.
C'est tout de même fortement financé, subventionné par des gouvernements.
Oui, et on peut comprendre pourquoi, hein, quand il s'agit d'insectes nuisibles à l'homme, par exemple. Bon, c'est un travail intéressant, mais pourtant, ce qui est inquiétant, c'est que ces efforts ne semblent pas très fructueux. Mais enfin, on comprend pourquoi un État qui veut lutter contre la fièvre dengue au Brésil sera tenté par ce travail de recherche. Mais quand on voit les résultats ne sont pas très concluants, hein, pour l'instant. Et c'est assez coûteux, d'ailleurs. Mais alors, bon, les choses pourront évoluer, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de résultats tangibles. Et puis, au bout du compte, on est en train de bidouiller quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut pourtant bien comprendre ce dont il s'agit. On ne peut pas se contenter d'un succès à court terme, parce que avec ces techniques de mutateurs génétiques, on pourrait créer de nouvelles résistances, qui pourraient créer des super virus, des super microbes que nous ne connaissons pas, et des risques qu'on ne peut pas prendre.
En fait, il faudrait être intelligent.
Ben oui, c'est ce qu'il nous faudrait. Il faudrait des gens qui soient climato-intelligents.
Si on revient au tout début de l'entretien, Pat Mounet, tous ces mouvements qui se passent dans le monde tellement extraordinaires, des grandes compagnies si loin de nous tous, là où se décident toutes ces choses extraordinaires. Est-ce que tous ces mouvements, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait davantage de vendeurs que d'acheteurs, est-ce que c'est là-dedans qu'on va peut-être trouver une faille, quelque chose d'où commencer à intervenir et empêcher ce qui est en train d'arriver ?
Une faille, je crois qu'on peut la voir. Alors, je ne sais pas si cela paraît optimiste ou carrément bisounours, mais il faut voir que, en réalité, le marché des semences et des pesticides réside dans les économies émergentes. Le deuxième marché, c'est le Brésil. Le troisième marché, c'est la Chine à l'échelle mondiale. Et les septième et huitième sont l'Argentine et l'Inde. Bon. Si ces pays-là n'acceptent pas les fusions qu'on nous propose, c'est-à-dire que si les autorités de la concurrence empêchent ces fusions, eh bien, ces fusions n'auront pas lieu. Parce que ces sociétés ont besoin de ces marchés. Si le Brésil dit non, eh bien, Monsanto et Syngenta ne pourront jamais faire de fusion.
Oui, mais le simple fait de ne pas faire de fusion suffirait à les affaiblir ?
Mais oui, parce qu'ils ont besoin de se renforcer. Hein. Ils se trouvent dans une situation critique. C'est la raison pour laquelle ils cherchent un acquéreur ou ils cherchent à trouver un partenaire de fusion. Ils ont un risque soit du côté pesticides, soit du côté semences. Ils doivent faire quelque chose. Ils sont dans une situation de faiblesse ou alors ils doivent carrément céder leur activité. Et on ne voit pas pourquoi la Chine, l'Inde ou le Brésil accepteraient ce genre de fusion entre grandes entreprises parce que, évidemment, cela entraînerait des prix plus élevés pour leurs propres agriculteurs. Ils seraient obligés de subventionner ces industries, notamment s'il y a un lien avec les engrais. Et ces pays n'en veulent pas. Et puis, surtout, ces pays verraient menacer leurs propres groupes nationaux, leurs grands producteurs, qui veulent au contraire gagner des parts de marché à l'échelle mondiale. Donc, il n'y a aucune raison pour que le Brésil ou l'Inde permettent ce genre de fusion. Mais si vous avez des marchés de ce genre qui interdisait une telle fusion et cela signerait leur arrêt de mort.
Cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez des liens vers le groupe ETC et notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Genepin, revue de web Anne Gouzon, traduction Robert Wolfenstein, mixage Cédric Châtelu, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.